Axel Kahn appelle le gouvernement à accélérer la campagne de vaccination en France. Le généticien critique la stratégie vaccinale française avec seulement quelques dizaines de personnes vaccinées dans notre pays. Par ailleurs, 300 élus publient une tribune pour vaincre les réticences des Français face à la vaccination. L'association Corona Victimes demande un nouveau confinement pour enrayer la deuxième vague de l'épidémie. Son président, le scientifique Michel Parigot, est l'invité de ce journal. C'est fait, les députés britanniques ont voté l'accord qui organise la nouvelle relation commerciale entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, une étape décisive dans le processus du Brexit. À la fin de ce journal, nous rendrons hommage à Claude Bolling, le jazzman français, disparu aujourd'hui à l'âge de 90 ans. Claude Bolling a composé de nombreuses musiques de films restées dans toutes les mémoires. La France a-t-elle pris du retard dans sa campagne de vaccination contre la Covid-19? Les chiffres interpellent ce soir. Environ 200 personnes vaccinées dans notre pays seulement, contre 78 000 en Allemagne et même 600 000 au Royaume-Uni. Hier, Olivier Véran avait revendiqué l'approche prudente du gouvernement. Le ministre de la Santé avait expliqué qu'il fallait prendre le temps de la pédagogie face aux réticences des Français à se faire vacciner. Il ne serait que 40% à accepter le vaccin selon un sondage Ipsos. Cette prudence de l'exécutif, le généticien Axel Kahn la conteste. Le président de la Ligue contre le cancer appelle à accélérer la campagne de vaccination en France.
La France semble être totalement obnubilée par l'importance de la résistance à la vaccination. D'une part, les anti-vax, on va dire, systématiques, qui de toute façon seront irréductibles, et les personnes qui sont hésitantes. Mais en fait, elle avance de manière si prudente, si mesurée, si hésitante, que c'est totalement dissuasif. Et je crois que cette politique de la prudence, en réalité, aggrave cette résistance. Parce que ce que pensent les gens, c'est si on prend tant de précautions, si on fait tant d'affaires, de procédures pour être vacciné, c'est que ça doit être vraiment une affaire difficile, compliquée, incertaine. Et à l'arrivée, en effet, on n'est pas du tout dans le rythme qui convient.
Axel Kahn au micro d'Aurélien Accard sur l'antenne de France Info. Et c'est peut-être aussi pour accélérer le processus que 300 élus viennent de signer une tribune dans le Figaro. Ces maires se disent prêts à se faire vacciner pour montrer l'exemple à ceux qui ne le souhaitent pas. Les précisions d'Antoine Marette.
Ces 300 maires sont de droite et de gauche, aucun du Rassemblement National, et c'est le maire d'Hiverdroite de Poissy qui est à l'initiative de ce texte. Carl Olive, ancien producteur de télévision, a un certain sens de la communication. Il souhaite faire bouger les mentalités des Français.
L'idée est venue de façon très concrète, comme tout élu de terrain qui se respecte. Une visite au marché du dimanche et sur 10 administrés croisés, 6 qui me posaient la question de savoir si moi-même j'allais me faire vacciner. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de dire que aujourd'hui nous avons 60% des Français qui rechignent et que si nous pouvons faire basculer les indécis, alors il fallait être sans état d'âme pour faire activer cette partition.
Carl Olive se voit comme un fantassin de la République en prise directe avec la réalité du quotidien, loin de l'élite qui suscite la méfiance de ses administrés. Il assure que son initiative n'est en rien un signe de défiance à l'encontre du gouvernement, même s'il souhaite faire passer un message à l'exécutif.
Plus que jamais aujourd'hui, peut-être que le salut public passe par le couple préfet-maire, comme pour les masques, comme pour les écoles. Appuyons-nous plus sur le terrain, venons faire de la territorialisation sur le terrain. Et qui de mieux placé que les maires pour pouvoir les mettre en partition?
Le maire de Poissy veut donner l'exemple. Il propose ainsi à l'agence régionale de santé que la salle des fêtes de sa commune devienne un centre de vaccination.
Antoine Marette, merci. Alors pour le moment, le gouvernement exclut de reconfiner le pays pour enrayer la deuxième vague. Il préfère mettre en place un couvre-feu avancé à 18h dans les territoires les plus touchés. 20 départements de l'est du pays sont concernés. Les modalités de ce couvre-feu sont en discussion avec les élus locaux. Il pourrait entrer en vigueur samedi prochain. L'association Corona Victimes, qui regroupe des victimes du coronavirus, appelle le gouvernement à changer de stratégie. Il faut, selon elle, passer de l'endiguement à l'éradication de l'épidémie. Le scientifique Michel Parigot, président de l'association Corona Victimes, est l'invité de ce journal. Bonsoir.
Bonsoir.
Michel Parigot, le gouvernement exclut donc pour l'instant de recourir à un nouveau confinement, même localisé. C'est une erreur selon vous?
Oui, c'est une erreur parce que de toute façon, on va aller vers un confinement, mais depuis le début, on attend la dernière limite pour agir au lieu d'anticiper. Alors que ce qu'il faudrait, c'est anticiper et puis en fait changer complètement de stratégie, c'est-à-dire que depuis le début, on a uniquement comme jauge les capacités hospitalières, c'est-à-dire on laisse aller l'épidémie jusqu'à ce qu'on arrive au maximum des capacités hospitalières, et à ce moment-là, on fait un confinement pendant un certain temps, et ensuite on repart et on recommence, c'est-à-dire on fait un espèce de jeu de yo-yo, et le résultat de tout ça, c'est quand même qu'on a énormément de morts, parce que le fait de se caler sur des capacités hospitalières, quand essentiellement on n'a pas de traitement de la pathologie, ça veut dire qu'on admet des milliers de morts, et puis ça veut dire aussi qu'à partir du moment où on fait des confinements réguliers, on détruit l'économie.
Michel Parigot, pour le moment, les capacités hospitalières françaises ne sont pas saturées, il y a encore de la marge.
Oui, mais c'est absurde de se baser sur les capacités hospitalières puisqu'on ne sait pas soigner les gens. Ça veut dire qu'on admet des milliers de morts. C'est-à-dire pour le moment, on vit sur un rythme qui semble finalement accepté par le gouvernement, qui est de plus de 300 morts par jour, c'est-à-dire plus de 10 000 morts par mois. C'est absolument énorme.
Cette stratégie d'éradication que vous souhaitez, cela signifie un nouveau confinement national ?
Il faudrait faire un confinement, mais un confinement limité, et descendre très bas en nombre de contaminations. Et à ce moment-là, on peut contrôler l'épidémie, comme on le fait précisément dans les pays du sud-est asiatique, et à partir du moment où on contrôle, on n'a plus besoin de confinement. L'erreur qui a été faite, c'est la fin du premier confinement. Si on avait pris des mesures strictes à ce moment-là, on aurait pu contrôler l'épidémie et ne pas avoir de nouveaux confinements.
Qu'entendez-vous par mesures strictes ?
Les mesures strictes qu'il faut prendre, elles sont connues. Elles sont essentiellement au nombre de trois. Il faut limiter le nombre de contacts. Donc, ça signifie limiter les réunions, tout ce qui est fait actuellement, qu'il faudrait peut-être faire un peu plus. Mais c'est surtout les deux autres facteurs qui ne sont pas mis en œuvre. Le deuxième facteur, c'est le port du masque. Et en France, on n'a pas voulu le faire, et puis on l'a fait par petites doses. Et actuellement, on n'a toujours pas de port généralisé du masque. Or, il faudrait qu'il y ait obligation du port du masque dès qu'on est hors de chez soi, et une recommandation très forte quand on est chez soi de porter le masque dès qu'on reçoit quelqu'un d'autre.
Dans les grandes villes, le port du masque s'est généralisé, il est même le plus souvent obligatoire.
Écoutez, moi je suis dans la banlieue parisienne et je peux vous dire qu'on ne porte pas le masque, on le porte peu. C'est-à-dire que dans le parc à côté de chez moi, il y a moins de la moitié des gens qui portent le masque. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose de strict et on n'est pas du tout dans quelque chose où on oblige au port du masque. On l'oblige dans certaines circonstances, mais il n'y a pas d'obligation générale du port du masque. Et c'est l'un des deux outils pour maîtriser l'épidémie. Ça a une très grande efficacité. Et on continue de dire qu'il faut porter le masque quand on ne peut pas respecter la distance d'un mètre. Or, on sait que un mètre ne suffit pas. Partout ailleurs, on recommande 2 mètres. Donc, on admet en fait des contaminations qu'on pourrait éliminer. Et puis surtout, il y a l'autre partie, c'est-à-dire le triptyque tester, tracer, isoler. Eh bien, on teste en France maintenant, on teste même massivement, mais derrière, ça ne suit pas, c'est-à-dire que on ne trace pas de manière efficace et surtout on n'isole pas les personnes qui sont contaminantes ou les personnes contacts susceptibles d'être contaminantes. Si on recommande simplement aux personnes d'aller chez elles, d'ailleurs sans expliquer comment on s'isole chez soi, ça ne peut pas fonctionner. Il faut arriver à isoler. Et isoler quelqu'un pendant 7 jours, c'est pas dramatique, parce que ne pas isoler les personnes contaminantes, ça signifie que on a recours à des méthodes beaucoup plus brutales de confinement, où en fait on isole toute la population pendant des durées qui sont beaucoup plus grandes, pendant des mois, alors que on pourrait simplement isoler les personnes contaminantes et les personnes contacts pendant quelques jours.
Michel Parigot, chercheur au CNRS, président de l'association Corona Victimes, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Il est très peu probable que les lieux de culture, à commencer par les théâtres et les cinémas, puissent rouvrir le 7 janvier. Déclaration ce soir de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, interrogé sur BFM TV. Cette date du 7 janvier avait été évoquée lors de l'annonce de la prolongation de la fermeture des lieux de culture début décembre. Une nouvelle étape a été franchie aujourd'hui dans le feuilleton du Brexit. Les députés britanniques ont validé l'accord commercial entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Le spectre du no deal est définitivement écarté. L'accord organise la nouvelle relation entre Londres et Bruxelles à partir de ce vendredi 1er janvier. Richard Place, la Chambre des communes, a massivement approuvé le texte.
The eyes to the right, 521. Yeah. The nose to the left, 73.
Yeah. 521 à 73, le vote est sans appel. Le Premier ministre et les conservateurs n'ont pas tremblé. Boris Johnson s'était assuré du soutien de sa majorité et les débats du jour n'étaient que de pure forme. Les partis qui ont voté contre ne pèsent pas lourd au Parlement britannique. Ils ont eu l'occasion de chatouiller le gouvernement sur les habituels sujets de friction. Le plus important, sans doute, l'Écosse. Le Parti national écossais a joué sa carte, celle des pêcheurs qui se sentent abandonnés, voire trahis. Derrière cet échange, un calcul plus lointain, des élections dans le pays des Highlands l'année prochaine et ensuite l'espoir d'un nouveau référendum sur l'indépendance. Mais pour aujourd'hui, l'affaire était pliée, surtout que les travaillistes ont eux aussi voté en faveur de ce texte. Leur leader, Keir Starmer, a mis en garde ceux qui étaient tentés de voter contre. Celui qui choisirait cette option aujourd'hui sait que nous n'aurons pas le temps de renégocier. Il n'y aura pas de meilleur accord à attendre dans les prochaines 24 heures. Alors prendre cette option nous emmène vers un seul endroit, le no deal. Presque tous les députés travaillistes ont entendu le message. 36 se sont abstenus, un seul a voté contre.
Richard Place, notre correspondant à Londres. Et ce soir, Boris Johnson a officiellement signé l'accord de libre-échange conclu avec l'Union européenne qui doit entrer en vigueur demain soir à minuit. Ce texte signé à Downing Street devant les caméras marquera le début d'une merveilleuse relation entre le Royaume-Uni et nos amis et partenaires de l'Union européenne, a déclaré le Premier ministre britannique. L'Union européenne qui a conclu aujourd'hui un accord de principe avec la Chine sur les investissements. Pékin promet d'offrir un accès qualifié de sans précédent aux entreprises européennes qui peinent à pénétrer le marché chinois. Le régime communiste s'engage aussi à lutter contre le travail forcé. Cet accord a été scellé en visioconférence entre le président chinois Xi Jinping et les dirigeants européens Ursula von der Leyen et Charles Michel. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont aussi participé à cette visioconférence. C'était l'un des piliers du jazz à la française. Le musicien Claude Bolling est mort aujourd'hui à l'âge de 90 ans. Pianiste, chef d'orchestre, compositeur, Claude Bolling avait débuté sa carrière après la guerre dans les caves de Saint-Germain-des-Prés. C'est là qu'il a commencé à côtoyer quelques-uns des plus grands jazzmen américains. Il aura ensuite composé d'innombrables musiques de films ou de feuilletons, dont certaines sont devenues cultes, Maxime Tellier.
Écoutez, Claude Bolling, c'est replongé dans la bande-son d'une époque, le Paris des années 40, après la libération de ce pianiste précoce, admirateur des jazzmen américains, Fats Waller d'abord, il devient ensuite disciple de Duke Ellington, il apprend des plus grands lorsqu'il passe à Paris, dans les caves enfumées de Saint-Germain-des-Prés. Je me souviendrai toujours de ton jeu de piano, lui glisse notamment Louis Armstrong. Il joue dans les cabarets, les musicals et se fait une place dans la composition de musique de film. Borsalino, en 1970, d'abord avec Delon et Belmondo. Mais aussi la série Les Brigades du Tigre entre 1974 et 1983. Incognito. Et en tout, Claude Bolling joue plus de 1000 concerts avec notamment son Big Band fondé en 56 qui jouait il y a quelques années encore. Ami de Gréco, de Salvador, de Boris Vian. C'est lui qui avait aussi arrangé le morceau La Madrague chanté par Brigitte Bardot.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés.
Voilà Brigitte Bardot sur une musique de Claude Bolling, le musicien disparu aujourd'hui à l'âge de 90 ans. On termine ce journal avec le temps demain, toujours hivernal, avec de la neige à basse altitude sur tous les reliefs et même en plaine sur le nord-est. En soirée, un temps pluvieux gagnera la moitié ouest du pays. Le matin, il y aura de faibles gelées dans le nord-est. Ailleurs, il fera de 0 à 6 degrés. L'après-midi, le thermomètre oscillera entre 1 et 14 degrés du nord à la Corse. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.